Okay.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 11 mai 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Attaque meurtrière dans le nord du Togo. 8 soldats ont été tués. L'ex-ministre ivoirien des eaux et forêts, Alain Richard Donvahi, élu président de la COP15. Au Sénégal, 6 mois de prison avec sursis pour 3 sages-femmes après le décès d'une femme enceinte à l'hôpital de Louga dans le nord du pays. Un responsable pro-russe évoque une annexion de la région de Kherson et une autorité ukrainienne affirme que Kiev a cherché à désorganiser les ventes d'alcool en Russie. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Togo, des terroristes présumés ont attaqué le nord du pays la nuit dernière. Le gouvernement indique que c'est un poste de sécurité avancé dans la préfecture de Kwangjal, près de la frontière du Burkina Faso, qui a été attaqué. De Lomé, la correspondance de Kossi Wousou.
C'est la première fois qu'une attaque d'une telle envergure frappe le Togo. Selon un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, elle a fait 8 morts et 13 blessés du côté des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement a condamné cette attaque qu'il qualifie de lâche et de barbare. Les forces de sécurité sont déterminées à rechercher et à mettre hors d'état de nuire ces groupes armés qui semblent étendre le théâtre de leurs opérations. Dans la nuit du 9 novembre 2021, un autre poste avait été attaqué. À l'époque, le ministre de tutelle, Yark Damran, n'avait pas donné de bilan de cette attaque dans la localité de Sanloaga, dans le Kwangjal, toujours près du Burkina Faso. Lors d'une récente conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, a affirmé que nous sommes dans un contexte très dangereux qui menace nos vies et nos intégrités territoriales. Les faits viennent de lui donner raison. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Les coups d'État militaires au Mali et au Burkina Faso, 2 des 5 membres de la force multilatérale anti-djihadiste G5 Sahel, mettent à mal sa capacité opérationnelle, estime le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un rapport émis aujourd'hui au Conseil de sécurité. Le chef de l'ONU indique par ailleurs être également gravement préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l'homme, alors que des informations font état de violations horribles commises contre des civils à la fois par des groupes terroristes armés, mais aussi, semble-t-il, par les forces armées et de sécurité de la région. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, s'est dit prêt mardi soir à dialoguer avec le groupe rebelle burundais basé dans l'est de la République démocratique du Congo lors de sa première conférence de presse en 2 ans de pouvoir. Le président a notamment mentionné le raid Tabara, le plus actif des groupes rebelles burundais, considéré comme terroriste par les autorités ainsi que les forces nationales de libération, les FNL. En septembre, le raid Tabara a revendiqué une attaque contre l'aéroport international de Bujumbura, la capitale économique, où plusieurs attaques avaient eu lieu le même mois. Les FNL, dirigés par le général autoproclamé Aloïse Nzapampena, sont une branche résiduelle de l'ancienne rébellion d'Agathon Rwasa, aujourd'hui devenu le principal opposant politique au Burundi. L'organisation Reporters sans frontières a dénoncé aujourd'hui des investigations complètement à l'arrêt sur le meurtre de la jeune journaliste française Camille Lepage en Centrafrique le 12 mai 2014 et demandé aux justices des deux pays de relancer l'enquête. La photographe de presse de 26 ans a été tuée par balle dans une embuscade alors qu'elle était en reportage avec une milice pour couvrir le pillage d'un village dans ce pays d'Afrique centrale en guerre depuis 2013. L'ex-ministre ivoirien des eaux et forêts, Alain Richard Donvahi, a été élu aujourd'hui président de la COP15 contre la désertification, alors que son ancien ministère fait actuellement l'objet d'un audit après des révélations sur un trafic de bois présumé. Le point avec Abdourahmane Dia.
Alain Richard Donvahi a été élu par acclamation des délégués de la COP15. Il était le seul candidat en lice. Il s'est dit très honoré, appelant la lutte contre la désertification difficile mais cruciale. Son mandat à la tête de la COP15 doit durer 2 ans jusqu'au prochain sommet sur le sujet. M. Donvahi, 59 ans, était jusqu'au 20 avril dernier le ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire depuis 2017. Il a fait partie des rares ministres qui ont quitté le gouvernement lors d'un récent remaniement. Fin avril, une enquête de Jeune Afrique avait révélé que le ministère des Eaux et Forêts faisait l'objet d'un audit de l'inspection générale d'État depuis fin février. Cet audit, confirmé par le gouvernement, intervient après le démantèlement d'un vaste trafic de bois précieux impliquant, selon Jeune Afrique, des membres du cabinet de M. Donwayi. La semaine dernière, il a dénoncé une campagne de dénigrement et une grotesque campagne d'intoxication, niant tout lien avec des réseaux de contrebande de bois.
Au Sénégal, trois sages-femmes ont été condamnées ce mercredi par un tribunal à 6 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Cette condamnation est liée au décès d'une femme enceinte dans un hôpital public. Les détails avec Mohamed Oumfa.
La défunte mère de 34 ans est décédée le 1er avril à l'hôpital après avoir attendu en vain pendant une vingtaine d'heures la césarienne qu'elle réclamait. Le personnel aurait refusé sa demande, arguant que son opération n'était pas prévue et aurait menacé de la chasser si elle insistait. Les prévenus ont nié et continuent de nier les faits. Une équipe médicale a une obligation de moyens, pas de résultats, a estimé leur avocat, affirmant qu'il allait apprécier la situation pour faire éventuellement recours. Le parquet avait requis 1 an de prison, dont 1 mois ferme. Elles écopent finalement de 6 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Présent dans la salle d'audience au moment du verdict, le mari de la défunte a déclaré s'attendre à un autre jugement que tout le monde trouverait plus raisonnable. Face au tollé provoqué par ce drame, le président Macky Sall avait publié un message de condoléances et donné pour instruction de déterminer les responsabilités. Le directeur de l'hôpital avait été révoqué.
La coalition internationale anti-État islamique réunie aujourd'hui au Maroc s'est engagée à poursuivre la lutte contre la menace croissante de l'organisation djihadiste, en particulier en Afrique et sa résurgence au Moyen-Orient. Nous sommes rassemblés pour partager l'engagement d'assurer la défaite durable de l'État islamique en Irak et en Syrie, à travers le continent africain et dans le monde entier, a affirmé la numéro 3 de la diplomatie américaine Victoria Nuland, co-hôte de la réunion avec le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Lancé en 2014 pour combattre le groupe djihadiste et sa mainmise sur un territoire de plus de 110 000 km² entre l'Irak et la Syrie, la coalition contre Daesh rassemble 84 États et organisations internationales, dont l'OTAN et Interpol.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Kiev a cherché à désorganiser la vente d'alcool en Russie. Parmi les actions de cyberguerre lancées par l'Ukraine contre la Russie, a indiqué aujourd'hui le vice-premier ministre Mikhailo Fedorov, chargé du numérique dans son gouvernement. Par ailleurs, les pro-russes de la région de Kherson veulent demander à Vladimir Poutine une annexion. On fait le point avec John Lindon.
Parmi les choses notables qui sont connues aujourd'hui, il y a l'attaque contre le système russe de taxation qui a permis de désorganiser la vente d'alcool en Russie, a déclaré M. Fedorov lors d'une conférence de presse virtuelle organisée dans le cadre du Paris Cyber Summit, une convention sur la cybersécurité qui se tient jusqu'à jeudi à Paris. Il n'a pas donné d'autres détails sur cette opération et est resté relativement discret sur les autres cyberoffensives menées par les Ukrainiens contre la Russie. Plus de 80 systèmes russes ont été endommagés, a-t-il indiqué, citant l'équivalent russe de YouTube, Routube, paralysé par une cyberattaque en début de semaine. Les sites de l'agence de sécurité russe FSB et du Kremlin ont également été mis à terre, a-t-il déclaré. D'autre part, les autorités installées par Moscou dans la région ukrainienne de Kherson ont indiqué mercredi vouloir demander à Vladimir Poutine une annexion, dernier signe en date que la Russie compte bien conquérir des terres ukrainiennes.
L'Ukraine affirme être en train de repousser les forces russes de la région de Kharkiv dans le nord-est, la deuxième ville d'Ukraine soumise depuis fin février à un déluge de feu, les autres fronts dans le sud et l'est ne semblant pas évoluer significativement. Londres a rejeté aujourd'hui les propositions avancées par l'Union européenne afin de trouver une issue au dossier des relations commerciales et des contrôles sur les biens transitant l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Londres et Bruxelles sont engagés depuis des mois dans des discussions visant à clarifier les modalités des échanges commerciaux entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne régie par le protocole nord-irlandais. Ce protocole intégré à l'accord post-Brexit a créé une frontière douanière de fer entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord afin de préserver la libre circulation des marchandises entre la province britannique et la République d'Irlande. Et puis Ferdinand Marcos Jr., fils de l'ancien dictateur philippin, a revendiqué aujourd'hui via son porte-parole la victoire à l'élection présidentielle, s'engageant à être le dirigeant de tous les Philippins. Selon des résultats préliminaires portant sur la quasi-totalité des bureaux de vote, Marcos Jr., surnommé Bongbong, a obtenu 56% des suffrages. Les États-Unis ont félicité le président élu, Ferdinand Marcos Jr., promettant de renforcer l'alliance avec le pays asiatique. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
La croissance économique de la République démocratique du Congo devrait être plus importante que prévu en 2022, selon le FMI, qui a revu ses perspectives de croissance de 6,1 à 6,4%. L'agence Ecofin précise que ces prévisions contrastent avec les risques qui continuent de menacer la stabilité économique du pays, notamment avec les pressions inflationnistes en provenance d'Ukraine. Au Togo, les autorités ont annoncé une subvention de 17 milliards de francs CFA pour les engrais pour la campagne agricole 2022-2023. L'exécutif togolais a annoncé l'achat de 76 000 tonnes de fertilisants. Le sac de 50 kilos coûte 31 000 francs CFA. Il sera subventionné à hauteur de 13 000 francs CFA et ne coûtera que 18 000 francs CFA pour les agriculteurs. Ici, aux États-Unis, l'inflation a un peu ralenti en avril, 8,3% contre 8,5% en mars, selon l'indice des prix à la consommation publié aujourd'hui par le département du travail. Mais la hausse des prix reste proche du plus haut niveau depuis 40 ans qu'elle avait enregistré le mois dernier. Avec une hausse de plus 9,4%, les prix de l'alimentation connaissent leur plus fort pic sur un an depuis avril 1981.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean-Roger Bion, bonsoir à tous.
En football, Eric Sékou Chèle attendu à Bamako.
Oui, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A du Mali, recruté le vendredi 6 mai 2022, Eric Sékou Chèle est attendu à Bamako cette semaine pour une prise de contact avec le comité exécutif de la Fédération malienne de football. De Bamako, la correspondance de Siaka Traoré.
Le Mali joue son premier match au compte des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 contre le Congo le 4 juin prochain ici à Bamako. Ce sera donc le début du challenge pour Eric Sékou Chèle, puisque parmi les missions qui l'attendent, il y a la qualification du Mali à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 d'une part, et d'autre part atteindre au minimum la demi-finale de la même compétition. Cette première rencontre en présentiel sera donc une manière pour la FEMAFOOT de réitérer les missions assignées au nouveau sélectionneur. Ancien défenseur central des Aigles seniors du Mali, Eric Sékou Chèle est âgé de 44 ans. Son dossier a été retenu parmi 56 autres candidats. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Yaya Touré serait-il de retour en Premier League, Bagassi?
Oui, selon le Evening Standard, l'ancienne star ivoirienne devrait avoir une réunion avec Tottenham ce mois-ci pour discuter de la possibilité de rejoindre les Spurs en plein temps. En tant que membre du personnel d'entraîneur des jeunes, Yaya Touré avait déjà travaillé brièvement avec les joueurs de moins de 18 ans. Selon le Standard, il ne travaillait initialement qu'un jour par semaine, mais a récemment augmenté son temps de contact avec les joueurs de l'académie.
Cette triste note en NBA ici aux États-Unis.
Oui, l'ancien pivot des Detroit Pistons et des Milwaukee Bucks, Bob Lanier, un des plus dominants des années 70 en NBA, est mort à 73 ans des suites d'une maladie. C'est ce qu'on a appris hier soir de la Ligue nord-américaine de basketball. La nature de sa maladie n'a pas été précisée.
Et toujours en NBA, en play-off, Miami et Phoenix entrevoient les finales de conférence.
Oui, guidé par Jimmy Butler, le Heat a sorti les barbelés face à Joel Embiid pour largement battre 120 à 85 Philadelphie. Et les Suns ont retrouvé leur allant collectif face à Dallas, 110 à 80.
Page des sports signée Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Retour sur l'attaque survenue la nuit dernière au Togo et qui a fait 8 morts parmi les membres des forces de sécurité. Il s'agit de la première attaque d'une telle envergure à viser ce pays côtier, confirmant l'extension de la menace terroriste dans la région ouest-africaine. Pour en savoir plus, Abdourahman Dia a joint Brakoul Yandabré, journaliste à Radio Motaog au Togo.
C'est l'information qui a réveillé presque toute la région des Savannes ce matin. Le poste de Sultan Kandi a été frappé par une attaque terroriste ou djihadiste venant donc du Burkina voisin, faisant état de 8 morts, 8 soldats côté togolais, 14 blessés et un véhicule blindé de type Manda endommagé, un type poulet et une arme emportée. Donc voilà, nos forces de l'ordre, les forces de l'ordre togolaises ont été suivies par ces terroristes qui sont arrivés avec des motos, ils étaient à une soixantaine. Et également, le véhicule de l'armée togolaise qui venait à renfort a marché sur une vie, ce qui a plus alourdi donc le bilan.
On sait que c'est une zone qui est proche de la frontière avec le Burkina Faso, mais est-ce qu'on savait que cette zone était un peu dans la ligne de mire des terroristes?
Oui, on peut le dire, oui, parce que les autorités togolaises ont pris sur elle la responsabilité de sécuriser cette zone avec l'opération Kondware. Je ne sais pas si vous êtes au courant, et a mis en place des stratégies de lutte contre ces terroristes depuis un moment. Et ça s'est plus accentué avec l'attaque de San Luaga en novembre dernier. Donc, si on peut l'affirmer, oui, le Togo, par les dernières de ses autorités, avait déjà pris les mesures, puisque dans cette zone frontalière avec le Burkina Faso, il y a beaucoup de mouvements qui se produisent. Et vous avez vu, après l'attaque de San Luaga également, le président de la République togolaise, avec ses généraux et le ministre de la Sécurité, qui est également originaire de la région, qui venait à tout moment, histoire donc de remobiliser les troupes, de voir, en fait, de toucher, de voir certaines réalités afin de mieux parfaire, de mieux rassurer les forces de sécurité positionnées à ce niveau.
Justement, parlons des populations. Le Togo, un pays côtier qui est aujourd'hui menacé, quel est un peu l'état d'esprit des populations?
Et on peut dire que c'est la toute première fois où le Togo a été frappé au nord. La première tentative a échoué à San Luaga. C'est la toute première fois où le Togo a été frappé. Et là, c'est une chose nouvelle. C'est une chose nouvelle qui vient là se loger dans les esprits. Il est vrai qu'il y a assez de craintes, mais les Togolais ont toujours su compter sur leur armée, surtout lorsqu'on évoque les interventions dans d'autres pays comme au Mali et autres. Mais le Togo a toujours été bien vu, a bien réagi.
C'était Brakoul Yandabré de Radio Motaog au Togo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
En République démocratique du Congo, il ne se passe pratiquement pas 2 jours sans que des miliciens de la CODECO, coopérative pour le développement du Congo, ne s'illustrent par des massacres dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Mais qui sont-ils vraiment, ces miliciens de la CODECO? Eddie Isango a joint à Bounia un enseignant de sciences politiques à l'université de Bounia et de Kisangani, Didier Likele.
La CODECO est une sigle qui signifie coopérative pour le développement du Congo. La CODECO est une nébuleuse qui est à la fois une secte, à la fois un groupe d'autodéfense et à la fois une milice essentiellement composée de l'ethnie Lendu. Ce groupe a été créé dans les années 1999, mais c'est depuis les années 2016 que ce groupe a repris vraiment des activités et se distingue dans les tueries dont les causes sont encore floues jusqu'à ce jour.
Qu'est-ce qui explique sa transformation de la coopérative agricole à une milice ou un groupe d'autodéfense?
L'Ituri est une province qui est à la fois composée des agriculteurs, il y a aussi des éleveurs. Et comme vous le savez, les éleveurs ont tendance à se déplacer, ce qui a constitué dans l'État une sorte de menace contre ces peuples sédentaires qui sont les agriculteurs, donc les Lendu et les autres. Alors, la coopérative qui est partie, n'est-ce pas, d'une association d'agriculteurs était né pour essayer, n'est-ce pas, de s'entraider mutuellement et de défendre leur espace contre la menace de l'expansion du peuple éleveur. Et c'est comme ça que ça crée du coup une sorte d'antagonisme entre peuple éleveur constitué des Lendu, des Ngiti et les autres contre les peuples éleveurs ou pasteurs essentiellement composés des peuples Ema. Ce sont des deux peuples qui sont presque ennemis et qui s'attaquent mutuellement de temps en temps.
Ce n'est donc pas exagéré d'affirmer que la Codeco défend les Lendu.
Oui, c'est pas exagéré. En fait, c'est une milice dont tous les Lendu ne sont pas partis, mais qui défend les intérêts Lendu.
Mais quelles sont les relations de la Codeco avec les autres milices? On a vu que ces jours-ci, ils étaient cités ensemble avec les FPIC, avec les APCLS dans des tueries.
Là, ce sont des accords qui arrivent au fur et à mesure que la mission évolue, étant donné que la société est dynamique et l'histoire politique est dynamique. Parfois, les alliances, c'est nous et c'est des nous. C'est dans ce cadre-là. Mais au départ de ces hostilités ici, dans les années 2016, c'est la Codeco principalement qui a commencé. La Codeco a fini par se disloquer et aujourd'hui, on a plusieurs branches de Codeco. Et à la fin des comptes, par rapport aux intérêts des uns et des autres, la Codeco parfois se réalise avec les FPI, appelé communément ici les milices Chinyakilima. Il y a aussi certains membres de la communauté Ema qui ont essayé de créer une autre milice qui s'appelle Zahir aujourd'hui, qui cherche à se défendre contre les attaques de la Codeco. Ça commence à attaquer de plus en plus la population.
C'était Didier Lekele, enseignant de sciences politiques à l'université de Bounia.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le président sénégalais Macky Sall a lancé mardi à Dakar un programme d'allocation financière pour plus d'un demi-million de ménages démunis afin de les aider à faire face aux effets de la guerre en Ukraine et de l'épidémie de COVID-19. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagaye, a recueilli les réactions des populations.
80 000 francs pour chaque ménage. Bon, je ne pense pas que ça peut régler le problème des Sénégalais. Avec cette somme minable, est-ce qu'elle peut régler la situation étouffante des Sénégalais? Le mieux, ce serait de subventionner les denrées de première nécessité avec les 48 milliards. Bon, à mon humble avis, pour moi, les Sénégalais mangent à leur faim et se soignent. Quand ils succombent à leur douleur, bon, ça ne nous intéresse guère, nos dirigeants, et c'est un dommage. 80 000 francs ne suffit pas pour une famille. Par contre, les 48 milliards pouvaient faire l'objet d'une subvention dans différents secteurs.
Je ne pense pas que cet argent puisse régler le besoin des Sénégalais. Moi-même qui vous parle, 80 000 francs ne peut pas régler mes besoins pour régler ceux de toute une famille. Avec cet argent, il aurait dû faire autre chose, par exemple créer des emplois. Les jeunes sont nombreux à chercher du travail. C'est normal qu'une population pauvre accepte ce genre de dons, même s'ils savent bien que cela ne peut rien régler. Ce que Macky Sall a fait ne règle en rien le problème des Sénégalais. On en est très loin d'ailleurs. C'est le travail et le travail bien fait avec la transparence qui peut apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais, ce à quoi je crois pour sortir un pays de la pauvreté. Cet argent ne servira à rien. Même si c'est pour des fins politiques, cela n'a pas de rendement.
Sidina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine et l'urgence d'une sécurité alimentaire en Afrique. Ce conflit qui oppose deux des plus grands exportateurs de blé dans le monde a mis en exergue la dépendance alimentaire du continent à l'extérieur, poussant décideurs et experts à appeler à une production locale plus importante de produits de base comme les céréales. Le FMI alerte même sur les risques de troubles sociaux en Afrique en raison de la flambée des prix alimentaires due au conflit en Ukraine. Comment l'Afrique peut-elle réduire sa dépendance alimentaire? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que le pays est sur le point de tirer parti de la demande croissante de métaux du groupe du platine. Les sanctions occidentales contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine ont forcé les investisseurs miniers à se tourner vers l'Afrique. Vicky Stark a tendu son micro à des experts du secteur minier à l'occasion de la conférence Investing in African Mining au Cap en Afrique du Sud. Le récit est de Nathalie Barge.
Certains experts affirment que la guerre en Ukraine est une aubaine pour l'économie sud-africaine. Peter Major, analyste minier.
Nous produisons la moitié du palladium mondial, 75% du platine et environ 90% du rhodium. Étant donné que tout le monde restreint la platine et le palladium obtenu de la Russie, cela fait monter les prix et nous sommes donc dans une excellente position.
L'Afrique du Sud est également un important producteur de charbon et Peter Major note que les prix sont également en hausse dans ce secteur minier.
Nous avons eu la chance d'obtenir 100 dollars la tonne pour notre charbon. Maintenant, nous recevons 300 dollars la tonne. Nous n'exportons pas plus de charbon qu'en 1994 à cause de la mauvaise qualité de nos infrastructures, mais au moins, nous obtenons trois fois le prix que nous aurions obtenu.
Hank Langenhoven, économiste en chef du Conseil des minéraux, estime que certains pays adopteront probablement plus rapidement l'énergie verte en raison de la forte hausse des prix du pétrole, ce qui devrait encore augmenter la demande de platine et de palladium utilisés dans la fabrication de centrales électriques à zéro émission de carbone. Mais pour profiter pleinement des opportunités minières, les pays d'Afrique australe doivent développer les réseaux de transport, souligne Henk Langenhoven.
Entre le Botswana, la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe et le Congo, il y a beaucoup de travail et d'investissement en cours pour pouvoir venir vers le sud ou traverser la côte ouest en passant par la Namibie ou Dar es Salaam. Une grande partie de cette infrastructure commence à être mise en place et à avoir un impact. Vous voyez des changements assez spectaculaires dans les volumes de tonnage allant par exemple à Windhoek.
Pour l'économiste, le discours prononcé par le président Cyril Ramaphosa lors de la conférence sur l'investissement minier démontre l'engagement du gouvernement sud-africain à résoudre les problèmes connexes.
L'un est l'électricité, bien sûr, que nous n'allons pas résoudre immédiatement. Nous essayons d'augmenter aussi vite que possible. L'autre est le transport, les réseaux ferroviaires et portuaires. Le troisième problème est d'essayer de rationaliser et de simplifier les questions politiques pour obtenir une mise en œuvre plus rapide.
Plusieurs dirigeants africains participent à la conférence sur le secteur minier, dont les présidents du Botswana et de la Zambie et le premier ministre de la République démocratique du Congo. Le sous-secrétaire américain à la croissance économique, l'énergie et l'environnement, José Fernandez, est également présent à la conférence Investing in American Mining qui se déroule au Cap jusqu'à jeudi.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde. Georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Kledou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes.